Bonsoir à tous. Il y avait la sexualité racontée aux enfants, la préhistoire expliquée aux enfants, Mozart pour les enfants. Eh bien, désormais, il y aura, grâce à Radio Éthique, l'écologie expliquée aux enfants. Nous sommes en direct à l'hôtel Fermont à Monaco pour Live Éthique avec nos invités ce soir. Alain Plat, le conteur, c'est lui, Chouchou le petit caillou qui raconte de belles histoires aux plus petits et leur fait découvrir la nature à travers l'imaginaire. Il y aura Virginie Lelarge, elle est créatrice de Biologica. C'est un jeu de société pour parcourir le monde en compagnie de Chouchou le petit caillou, justement, et de Pinguino. Et c'est le moyen pour les petits de découvrir les espèces menacées. Olivier Arnoux, d'Act for Nature, il est à l'origine de Monacologie, la semaine du développement durable pour les jeunes de 7 à 77 ans en principauté. Michel Vanzé, d'SOS Grand Bleu et ses ateliers pédagogiques. Marian Gandon, le chef du Fermont, qui explique les légumes aux enfants. Il leur apprend à les cuisiner et à les utiliser pour autre chose. Je vous en laisse la surprise. Enfin, Valérie Tomatis-Noyac, qui décrypte deux fois par mois sur Radio Éthique des courts-métrages de fiction ou d'animation sur le développement durable. Sans oublier, évidemment, Nathan, son fils, à qui l'on demandera, et c'est quand même la moindre des choses, si l'écologie l'intéresse plus que les jeux vidéo ou le football en ces temps privilégiés, ou autant, ou pas du tout.
C'est parti pour une heure d'émission live, en public et en direct, du Fermont Monte Carlo.
Quand un caillou rencontre un autre caillou, que se raconte-t-il ? Eh bien, les histoires de cailloux, avec Chouchou, qui est votre personnage, Alain Plat. D'où vous est venue l'idée de se faire rencontrer ces montagnes miniatures ?
Alors, l'idée est née, en fait, de, on va dire, grâce à ma fille, puisqu'elle ramassait des cailloux sur la plage, pas très loin, à Roquebrune.
C'était pas le petit pousset, vous n'aviez pas essayé de la perdre ?
Oui, non, pas du tout. Non, au contraire, j'étais même un grand papa poule, on va dire. Donc l'idée c'était de trouver un livre à un moment sur les pierres et comment ne trouver rien. J'ai décidé de lui inventer une histoire et justement chouchou parce qu'on mangeait ces fameux chouchous sur la plage. Voilà, c'est né comme ça et puis après les cailloux, quand ils rencontrent des cailloux, ils parlent de cailloux mais ils parlent aussi de rivières donc ils descendent jusqu'à
l'air. Alors justement, qu'est-ce que vous évoquez dans vos albums ?
J'évoque un autre regard peut-être sur la géologie aussi, qui est un terme un peu barbare souvent. Alors que, bon, on le voit tous les jours à travers plein de choses qui se passent, la Terre est bien vivante. Et souvent, quand on voit ces rochers, on oublie que leur rythme, leur cycle de vie n'est pas le même que celui de l'eau, mais pourtant, ces cailloux qui ont l'air immobiles, éternels, se transforment aussi. Donc, c'est toute cette histoire à travers des personnages qui sont des cailloux. Il y a aussi beaucoup d'animaux, forcément, la végétation, et puis l'eau, parce que quand on parle géologie, on parle forcément d'eau. Puisque l'érosion, puisque tout ça, puisque ces gros rochers se transforment au fil du temps en petits grains qui finissent au bord des plages. Donc c'est une manière de parler du cycle de vie et puis de notre environnement tout simplement, de regarder un petit peu différemment tout ça.
Il y a combien d'albums de Chouchou le petit caillou qui sont parus déjà ?
Alors il y a 3 albums en fait qui sont parus et le 4e sort tout bientôt, fin juillet, où là on est vraiment dans l'eau, on finit le cycle des roches.
Ouais. Alors justement on arrive avec le grand déchet, le sanctuaire marin, ça sera donc fin juillet, ça parle de... C'est vraiment, là on est parti de la montagne, on est descendu par les rivières, on arrive à la mer.
Exactement, c'est vraiment, on part, il y a eu la première histoire, était très, les aventures de Chouchou le petit caillou, le premier était très onirique, hein. Et à partir du deuxième c'est vraiment une collection pédagogique et une collection avec une vérité géographique, géologique. Donc on est parti du Rhône, dans son parcours suisse, depuis son glacier jusqu'au jet d'eau de Genève. Et dans la dernière histoire, le parc aux merveilles qui est paru, là on partait du Mont Blanc, avec toute une intrigue dans le Mercantour, pour se finir en fait juste au-dessus, sur la tête de chien, avec ce rocher qui est un calcaire jurassique, comme Chouchou le petit caillou, ce rocher de Monaco qui leur montrait la direction du sanctuaire marin. Moi ce qui m'intéresse à travers ces histoires, comme je fais beaucoup d'animation en école, c'est de montrer à un enfant qu'un geste dans un fleuve ou une rivière, qui a l'air assez loin de la mer, là-haut dans les Alpes, ce geste peut avoir une incidence. Mm-hmm. Ce sont vraiment ces racines qui se jettent en Méditerranée. Et donc là, on arrive avec le sanctuaire marin, où là, on part vraiment du musée océanographique de Monaco, et on part sur Port-Cros, sur la Corse, sur l'île d'Elbe. En fait, on fait tout un tour de cette zone qu'on appelle la zone du sanctuaire, la zone Pélagos. Pélagos Monaco, d'ailleurs, est partenaire de ce livre. C'est vraiment ce sanctuaire où on essaye de sensibiliser aussi bien par d'autres méthodes de pêche, par le système qui met en place le REP7 pour éviter les collisions avec des baleines, etc. Donc montrer qu'il y a des parcs nationaux comme le Mercantour qui existent où on protège cette biodiversité, mais qu'aussi en mer, il y a beaucoup de choses qui sont faites.
Vous êtes un conteur ? Est-ce que vous êtes un conteur oral ou seulement un conteur écrit ? Je ne vais pas vous demander d'improviser, mais je vais quand même vous demander.
Bonne question,
de...
mais. Par contre, non. Pour répondre à votre question, vraiment, en général, je compte mes histoires. Et je compte mes histoires, je prends des libertés, mais je les compte souvent au départ par rapport à la vérité du livre. Parce que c'est pas seulement un livre sur l'environnement, c'est aussi un livre sur la poésie des mots. J'essaye de ramener ce moment du soir entre parents et enfants pour qu'ils partagent une émotion. Et donc, quand je compose des phrases, je dis d'ailleurs composer, mais c'est vrai, je les compose comme pour moi, les mots, ce n'est que de la musique. Voilà. Et quand je mets un point, c'est que pour moi, mélodiquement, la phrase a emporté les gens qui le lisent, comme une rivière.
Et vous pensez que les enfants sont de meilleurs auditeurs que les adultes ?
Non.
Ou de meilleurs lecteurs ?
Non. Non. Moi, je suis assez souvent épaté de voir quand je fais un théâtre, je suis dans un théâtre ou un forum, dans une librairie, les parents viennent souvent en disant « Tiens, il y a un truc pour les enfants. » Bon. Alors, on s'assoit avec les enfants et puis c'est pour eux. Et quand je compte, je m'aperçois que les yeux des parents brillent souvent autant que ceux des enfants. Et même, il y a souvent des gens qui viennent me voir après en me disant « Écoutez, merci parce que ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas raconté finalement une histoire en tant qu'adulte. » Les gens ne sont plus prêts à écouter des histoires souvent, et quand on leur raconte, ils se disent « il me manquait quelque chose ».
On va leur raconter une petite histoire, vous allez leur raconter le début de quel conte ?
Le début du prochain, puisqu'il
est
à Monaco.
Le prochain, c'est en avant-première.
Oui, c'est, de toute façon, l'avant-première, elle était sur Radio Éthique déjà. Alors, il faut savoir que la dernière histoire se finissait sur la tête de chien, mm-hmm. avec donc cette vue sur le rocher. Et donc, la prochaine histoire, le premier chapitre s'appelle « Le musée et le goéland », et ça naît ici. Roca, le gypaète barbu, s'envola vers le rocher et se laissa planer au milieu des parapentes. « Drôle d'oiseau », songea-t-il. Depuis la tête de chien, le chemin désert ne fut pas bien long, et le rapace du mercantour se posa sur un bel édifice surplombant les eaux. Voyant arriver cet étrange équipage, un goéland se mit à rire. « Hola, flibustier, soyez les bienvenus. »« Bonjour à toi, pirate des mers », répondit Roca. Nom d'une sardine à l'huile, qu'est-ce qui vous amène au bord de la Grande Bleue ? La quête du sanctuaire marin. Nous cherchons le pays des baleines et des dauphins, reprit Chouchou. On dit qu'ils sont en danger en Méditerranée. Dans mes ailes, amis des cétacés, vous ne pouviez pas mieux atterrir. Cette bâtisse n'est autre que le musée océanographique de Monaco. Attendez donc la nuit. Je vous ferai passer en douce dans les grandes salles. Les poissons des aquariums vous aideront sans doute. Et je vous montrerai les bureaux où se trouvent les cartes. Et lorsque s'allumèrent les lumières de la ville et que le gardien ferma la grande porte, nos amis pénétrèrent par une fenêtre au-dessus de la falaise.
Alors, hormis le sanctuaire marin, il y a deux autres livres à paraître cette année.
Il y a deux autres livres. Alors, il y a un livre, un conte de Noël, qui est vraiment un conte de Noël à double titre, parce que là, pour le coup, c'était pour le JT de TF1 du jour de Noël. Et il m'avait appelé en cherchant une histoire. Enfin, il voulait que je raconte une histoire, mais une histoire de Noël. Et donc, plutôt que trouver un livre en bibliothèque, j'ai dit, il m'est venu quelques idées. J'ai dit, je vais écrire une histoire qui s'appelle donc Gaspard ou les enfants de l'espoir, qui sera avec un autre illustrateur qui s'appelle Serge Ceccarelli, alors que Chouchou, c'est avec Magali Chirico. Et du coup, cette histoire que j'ai inventée à cette occasion pour le JT de Noël, ça devient un livre. Avec un message toujours, justement, on est sur Radio Éthique, ça tombe très bien. Parce que tous mes livres, finalement, il y a une certaine éthique, il y a un certain message pour les enfants par rapport à la société qu'on vit tous les jours. Il y a des choses, je pense, beaucoup de choses à améliorer. Et puis, j'essaye toujours que ce ne soit pas juste quelque chose de uniquement ludique. Il faut qu'il y ait un petit message derrière. Donc, il y a Gaspard. Et puis, il y a un autre projet qui est pour décembre. Ça, c'est un projet aussi très intéressant qui est né avec l'AMA de Monaco. Donc, on a signé un partenariat avec l'association dont je suis le président, Sourire en Bandoulière. Puisqu'ils ont tout un projet pédagogique à Madagascar avec une vision que je trouve assez intelligente de l'humanitaire. Et donc on va sortir toujours avec Serge un livre qui traitera un petit peu d'économie solidaire, un petit peu d'éducation par rapport à tout ça, avec l'AMA de Monaco. Voilà.
Vous avez le moyen de connaître l'impact de ce que vous écrivez ? Comment ressentent les enfants sur ce qu'ils lisent, sur ce qu'ils écoutent ?
C'est vrai que ça fait 5 ans que je me balade avec mes contes, 5 ans avec mes livres. Et vous savez, pour moi, le plus beau cadeau, c'est quand un gamin qui a 6-7 ans... il y a un salon que je fais chaque année, par exemple, ici, qui est pour moi le plus grand salon de PACA, qui est celui de Mansartou, où je fais beaucoup d'animations en école, tout ça. Et c'est vrai que chaque année, quand je vois un gamin... Parce que j'ai toujours le stand en face, la porte d'entrée du salon, quasiment au fond. Et quand je vois un gamin qui arrive du fond là-bas en courant, qui a 6-7 ans, ça veut dire qu'il sait pas lire Chouchou tout seul, parce que Chouchou sont des livres difficiles, mm-hmm. pour justement ramener les parents à ce moment-là. À ce moment de partage, même 5 minutes le soir, mais de partage. Et quand je vois ce gamin qui a 6-7 ans qui court vers moi parce qu'il sait qu'il y a le dernier Chouchou, je me dis d'abord les parents jouent leur rôle, et puis ça vaut tous les commentaires du monde, quoi. Les enfants, l'avantage par rapport aux adultes, c'est qu'ils n'ont pas encore appris la grande hypocrisie, et que donc un enfant, il va me dire j'aime ou je n'aime pas, mais s'il n'aime pas, il prendra pas de gants. Et par contre, quand il aime, c'est avec des grands yeux, et là, ouais. Donc voilà.
Virginie Lelarge, c'est un petit peu dans la même ligne que vous travaillez, vous, mais plutôt du côté jeu de société. Vous pouvez nous expliquer un petit peu Biologica comme vous l'expliqueriez à un enfant ?
Alors, donc, Biologica, c'est un jeu que j'ai co-conçu à l'occasion de Monacologie, donc la semaine monégasque de sensibilisation à l'environnement. Le but, donc, était de sensibiliser les enfants à la biodiversité. Et donc, pour cela, j'ai travaillé avec Olivier Arnoux de l'association Act for Nature.
On retrouvera tout à l'heure.
Voilà, donc, qui m'a expliqué et qui m'a accompagné à choisir, disons, les animaux que j'allais présenter aux enfants. Les espèces menacées sur la planète et les sensibiliser autour de ces animaux.
Alors, dites-nous vraiment concrètement, bon, j'ai le jeu devant moi, par exemple, comment ça marche?
Donc, il y a un planisphère, en fait, où les continents ont été découpés dans le bois et peints pour symboliser donc, les différents continents et aussi apprendre aux enfants comment les positionner sur un planisphère. Puisqu'à l'occasion de Monacologie, on avait des tout-petits de 3 ans jusqu'à 10 ans, donc tout le monde ne savait pas les positionner. Et puis ensuite, il y a une boîte avec différentes espèces menacées. Et le but du jeu, un petit peu comme la démarche d'Alain Place, c'est un jeu à partager entre parents et enfants. Donc en leur montrant une espèce menacée et leur demandant déjà de la reconnaître, de nous expliquer un petit peu ce qu'ils savent sur cette espèce, où est-ce qu'elle habite sur la planète. Et quelles sont les menaces qui pèsent sur cette espèce?
Alors, les espèces menacées qu'il faut placer, quelles espèces vous avez sélectionnées dans le jeu?
Donc, j'avais choisi des espèces assez emblématiques et symboliques pour les enfants, comme le panda, l'ours polaire, le requin blanc, et puis d'autres un petit peu moins connus, le vautour indien, l'albatros. Et l'idée était aussi de leur expliquer quelles étaient les menaces autour de ces animaux, notamment l'habitat, la pêche aussi. Et puis l'idée était vraiment d'échanger avec eux dans leurs mots et puis de les amener proposer des solutions potentielles pour plus tard avec leur esprit d'enfant dans leurs mots pour savoir comment on pourrait œuvrer pour protéger la biodiversité.
Alors c'est pas un jeu des 7 familles, mais ça se fait quand même en famille. Il y a papa, maman et fiston ou fifi animal.
Voilà. Non, dans les animaux, non. Chaque espèce est représentée par un seul animal, mais c'est un jeu qu'on peut partager en famille parce qu'il y a effectivement besoin de l'assistante de l'adulte pour animer pour l'enfant. Et donc, il y a un petit guide pédagogique que j'ai créé avec Olivier Arnoux, justement pour que les parents puissent avoir l'information, expliquer aux enfants les menaces qui pèsent sur les animaux.
Alors justement, si les enfants n'arrivent pas à comprendre le but du jeu, je dirais, ou son fonctionnement, comment vous arrivez à les guider? Comment faut-il faire?
Disons que c'est un jeu évolutif, c'est-à-dire quand on a 4 ans, ce qui va plaire, c'est de regarder l'animal, de dire que c'est un panda, de le faire marcher sur le planisphère. Et quand on a 10 ans, on va se poser un petit peu plus de questions, savoir où est-ce qu'il est placé et comment dire, livrer finalement ses connaissances sur les espèces.
Alors le jeu, justement, le jeu est accompagné d'un guide pédagogique. Ça, c'est à ramener à la maison pour essayer d'approfondir un petit peu plus au-delà du simple maniement des pions, quoi.
Voilà, c'était pour prolonger finalement la sensibilisation auprès des enfants et toujours dans le même esprit qu'ils puissent partager ce moment de sensibilisation avec leurs parents. Donc, tout comme toi, Alain, moi, l'idée m'est venue de mon petit garçon qui a 3 ans et demi. Et donc, qui me posait des questions sur les animaux, où est-ce qu'ils habitent, etc. Et donc, c'est venu comme ça. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un vrai terrain de jeu pour les enfants à l'occasion de Monacologie.
C'est un jeu qui s'adresse à des enfants de quel âge?
Alors, aujourd'hui, je dirais qu'il correspond plus à des petits, donc entre 4 et 8 ans. Mais l'idée, c'est de faire aussi des versions pour les 8-13 ans, je dirais, pour les adolescents, peut-être sous la forme d'un trivial poursuite, mais sur les espèces menacées. Enfin, bon, ça, c'est encore en réflexion aujourd'hui.
Vous êtes responsable de l'IMED, c'est, si je ne me trompe pas, c'est l'Institut méditerranéen d'études et du développement durable. Qu'est-ce que c'est, l'IMED?
Donc, en fait, c'est une entreprise et que j'ai créée. Donc, j'accompagne donc les entreprises, les associations, les institutions à mettre en place des projets autour du développement durable, notamment au travers d'études et de sondages et d'évaluation de leur démarche sociétale en entreprise.
Et c'est l'IMED qui sponsorise le jeu?
Donc, pour cet événement à Monacologie, en fait, j'étais accompagnée de plus d'une dizaine d'entreprises qui voulaient finalement porter leur message environnemental auprès des enfants au travers d'IMED. Donc, l'idée, c'était que ces entreprises, dans leur activité au quotidien, ne peuvent pas forcément mener des projets pour les enfants. Et quelque part, ils me mandataient pour le faire au travers de ce jeu, où ils trouvaient de l'intérêt pour les sensibiliser. Et puis, parce qu'aussi, il y avait des acteurs reconnus en principauté qui participaient à ce jeu, à l'élaboration de ce jeu, comme Alain avec Chouchou le petit caillou, Olivier Arnaud d'Agfournetcha pour le guide pédagogique.
Et comment ça a été ressenti, ce jeu? Les enfants ont été intéressés? Ils sont plus, ils sont amusés?
Oui, je pense qu'ils sont amusés. Je dirais même qu'ils ont adoré, ils ont été spontanés dans toutes leurs remarques. Ils ont aimé la diversité des animaux, ils ont aimé pouvoir s'exprimer, pouvoir en parler, pouvoir apporter des solutions. Donc il y a eu des solutions très drôles de proposer, comme de transporter l'ours polaire sur un bateau rempli de glaçons du pôle Nord au pôle Sud. Mais oui, ils sont très concernés et ils ont envie d'en parler, ils ont envie d'en partager ça avec nous. Et aussi, je pense qu'ils sont beaucoup en attente de nous, les adultes, pour les transmettre ces valeurs et puis les aiguiller un petit peu dans ce monde que nous aussi, on est en train de créer aujourd'hui.
Est-ce qu'ils vous ont posé des questions que vous ne vous étiez pas posé?
Non, je ne pense pas avoir été sèche sur les questions.
Merci Alain Plat, merci Virginie Lelarge. Dans un instant, on va se retrouver. On aura à côté de nous Olivier Arnoux d'Act Furniture et Michel Vanzé d'SOS Grand Bleu.